Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la Une.
Réseau à la Une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la Une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeux, président et dirigeant associé de Franchise Management.
Réseau à la Une.
Réseau à la Une. Le podcast.
Bonjour Sylvain, merci d'être parmi nous pour cette nouvelle édition. Alors Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bernard, responsable commercial du réseau Diet Plus. Fondé en 2008, l'enseigne évolue sur le marché du rééquilibrage alimentaire et s'est développée en franchise dès 2010. Aujourd'hui, le réseau compte 227 centres actifs et continue d'accroître son maillage territorial chaque année. Diet Plus a participé à la rubrique du réseau à la Une pour le numéro de novembre 2020. Donc bonjour Nicolas, merci de nous avoir rejoints.
Bonjour, merci Camille et bonjour à Sylvain. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer à cette émission avec vous.
Merci beaucoup. Alors pour commencer, pour recontextualiser les choses, Sylvain, pouvez-vous nous expliquer quelle est la notation de Diet Plus et quels sont les points forts des documents juridiques que vous avez pu analyser ?
Alors, on analyse deux outils juridiques phares dans cette analyse-là, qui sont le document d'information précontractuel, donc le DIP, et le contrat d'adhésion au réseau, à travers 50 points de contrôle. Encore une fois, c'est un diagnostic sur pièce, donc c'est un diagnostic qui tient compte du concept et de la taille du réseau, mais sans être allé à l'intérieur. Donc ça, c'est un point qui est important. Sur cette base d'analyse, ce qu'on constate, c'est qu'on a un contrat qui est plutôt de très bonne facture, qui a été très bien rédigé, puisqu'il est scoré à 83%. Mais on a un DIP qui nécessiterait d'être revu et amélioré pour améliorer la notation générale. Donc on a un bon DIP, on a une introduction, on a un bon contrat, pardon. On a un DIP avec une introduction qui est plutôt intéressante parce qu'elle met en valeur les dirigeants de manière qualitative avec leurs photos, avec une présentation de leur CV. Donc ça, c'est assez professionnel. Et assez qualitatif. Ensuite, ça mérite d'être amélioré pour permettre vraiment à un candidat d'avoir une vision plus large, plus précise du concept et s'engager vraiment dans un projet, étudier la faisabilité en toute connaissance de cause. Donc c'est ce qu'on va voir, je pense, durant notre échange, c'est quelles sont les pistes d'amélioration pour rendre ce DIP plus éclairant pour un candidat.
Bah justement, quelles sont les pistes que vous pourriez donner à Diet Plus pour améliorer et renforcer les informations que le DIP devrait contenir ?
Il y a quatre éléments en fait, qu'on voit qui sont améliorés. Après, il y a quelques points divers, mais on pourra les regarder en aparté si c'est nécessaire, mais il y a vraiment quatre gros points importants. Il y a un premier point important qui est lié à la présentation de l'évolution du réseau et à la présentation de l'évolution de l'entreprise. Ces paragraphes-là dans le DIP sont extrêmement courts et en plus, ils font reflet à un certain nombre de résiliations qui ont eu lieu au sein du réseau sur l'année précédente, en fait, ce DIP-là. Donc, quand on a un réseau qui avance concrètement et qu'il n'y a pas de point de questionnement pour un candidat à porter, ça pourrait ne pas poser de soucis. Mais dans ce cas de figure, en fait, quand on lit le DIP, on se dit pourquoi il y a eu des résiliations et finalement comment évolue le réseau et va bien. Et là, en fait, cette partie du DIP, de mémoire le 3.3, les principales étapes de l'évolution, on a quatre lignes qui expliquent comment va le réseau, essentiellement sur, on parle de l'Espagne, mais on parle très peu de la Belgique, mais on parle très peu de la France. Ça mériterait d'être précisé pour expliquer en fait et conforter le fait que le réseau se développe bien, le cas échéant, et donc mettre du sens derrière ce constat qui est factuel. Donc ça, c'est un premier point, en fait. Il faut préciser, approfondir comment le réseau d'exploitation évolue et aussi comment l'entreprise évolue. Premier point important.
Est-ce que Nicolas Bernard, vous souhaitez réagir à cette première analyse?
Oui, alors je peux déjà commencer à réagir, puis en même temps vous poser une question. Alors déjà je vous remercie parce que c'est effectivement très intéressant. Nous on a de l'ambition et on cherche à s'améliorer. Et je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait faire mieux. Et donc moi je suis vraiment attentif à toutes ces remarques. Sur ce qui a été dit, effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que et ça faisait partie, hein, nous on en avait conscience aussi, des pistes d'amélioration, effectivement, de compléter, je pense, le DIP. Sur le paragraphe qui est visé là précisément, je suis assez d'accord sur le fait que ce n'est pas assez détaillé et qu'on pourrait peut-être aller plus en profondeur sur les étapes d'évolution du réseau. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, sur l'accompagnement du candidat, il y a énormément d'informations qui sont divulguées en amont de l'envoi du DIP, qui fait qu'au final, ça ne nous a jamais porté préjudice. On n'a jamais eu un candidat qui nous a dit « Ah, je suis en manque d'informations », puisque on a déjà auparavant répondu à tous ces besoins-là. Et finalement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a jamais été bloqué dans notre développement avec un DIP qui manquait de contenu, parce que tout ça a été déjà vu en amont avec le candidat. Après, sur les résiliations, j'avais une question, donc une précision. Sur les résiliations, ce qui vous gêne, c'est le manque de détails sur les raisons de ces résiliations, c'est ça?
Oui, parce que… Alors oui, sur ce sujet-là, il y a ce qu'impose la loi, donc on va dire le cadre, la conformité légale. Bon, la conformité légale, on doit préciser le motif, est-ce que c'est de la résiliation, de l'expiration ou de l'annulation? D'accord. Donc là, en fait, on respecte le cadre, on met 18 résiliations de mémoire, je crois que c'est ça. Zéro expiration, zéro annulation, donc on a respecté le cadre. Mais en fait, on s'est limité au cadre légal, et c'est pas anodin d'avoir ce nombre de résiliations. Donc, c'est toujours important, intéressant de le préciser. Et puis aussi, en fait, moi, ça fait écho, il n'y a pas que cet élément-là, il y a l'élément dont on parlait juste avant, qui est les principales étapes d'évolution. C'est-à-dire qu'un candidat, il faut pouvoir lui donner de la perspective, de la hauteur, et d'expliquer le sens. Ça peut être fait à l'oral, effectivement, mais c'est quand même mieux quand c'est fait à l'écrit. Et c'est quand même mieux quand c'est simplifié pour un candidat. Par exemple, ça me revient comme ça dans notre échange, c'est pour ça que c'est pertinent d'échanger, c'est qu'en fait, quand on reçoit un DIP, une fois sur deux, on va recevoir une agrégation de documents. Donc, on va recevoir un contrat, on va recevoir un état général, on va recevoir un état local, on va recevoir un bout de DIP, et en fait, on ne sait plus où est le DIP. Le DIP, c'est un document, normalement. Et là, en fait, on reçoit plein de pièces jointes. Et on se dit dans quel ordre on le prend, où est-ce qu'on le prend. Parfois, on a même une plaquette commerciale qui est ajoutée, donc on se dit, ils annexent la plaquette commerciale au DIP ou pas. Donc, on ne sait pas. À un moment donné, pour un candidat, pour lui donner de l'efficacité, pour l'aider en fait à construire son projet, c'est bien qu'il ait un bloc ordonné, clair, à partir duquel il va construire son projet. Et voilà, donc c'est vrai que les principales étapes d'évolution du réseau, compte tenu du contexte, mériterait d'être plus approfondi, je pense. Et le deuxième point, c'est de se dire l'échange est toujours important avec le candidat, mais quand en plus c'est bien ordonné, recensé dans un seul document qui fait référence pour aider le candidat à monter son projet, c'est plus simple pour tout le monde, en fait.
Ce que vous dites, c'est que vous préconisez que le DIP vienne avec les autres documents qui sont importants sur le parcours d'entrepreneuriat du candidat. C'est ça
que
vous dites?
Ce que je préconise, c'est que le DIP ne se limite pas à un exercice d'agencement de documents légaux, mais explique aussi, en restant toujours très factuel et très tangible. On ne fait pas de promesses dans un DIP, on ne fait pas de l'incantation dans un DIP, on est factuel, on est tangible, mais on explique et on met le sens. Donc, on explique s'il y a eu des résiliations, bah, on peut expliquer le motif, hein, c'est tangible, c'est concret, ça éclaire le candidat, évidemment. Et quand on explique bah, les principales étapes d'évolution du réseau, généralement sur les 5 dernières années, bah, on les détaille de manière factuelle. Et donc, on montre comment le réseau a évolué et ça permet à un candidat de prendre plus de hauteur quoi, et d'avoir une bonne appréciation globale. Voilà. Alors, donc, je dis, c'est ne pas se limiter en fait, à un contexte purement juridico-juridique, mais d'en faire un vrai outil d'aide à la décision pour le candidat. Ce qui est généralement fait de manière verbale, en fait. Hein.
Mais c'est alors, ça l'est fait aussi de manière écrite, dans le sens où nous, nos candidats, suivent depuis le premier jour où ils nous contactent jusqu'à après même leur vie de franchisé, ils suivent tout leur parcours sur une plateforme numérique. Oui. Et le candidat passe par plusieurs étapes et sur ces étapes, on va lui mettre à disposition tout un tas de documents qui sont référencés par rapport à un ordre chronologique. D'accord ? Et c'est pour ça que le DIP vient s'intégrer un moment dans l'étape du parcours du candidat. Chez nous, ça va être à l'étape 5, par exemple, sur un parcours en 16 étapes. Mais il retrouve tout l'historique des documents qu'on lui a mis à disposition. Donc, après, je vois dans quel sens vous nous préconisez ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, le candidat, il a une vision assez claire des documents dont il a besoin pour se construire son projet avec nous ou pas, justement.
Sylvain, vous parliez de 4 points d'amélioration possibles pour améliorer le DIP. On en a évoqué 2. Quels sont les 2 autres points sur lesquels Diode Plus peut miser pour étoffer et améliorer le DIP ?
Alors, bon, il y en a un qui est amélioré, qui est sur les éléments financiers, en fait. Pareil, on est en fait dans le strict nécessaire, en fait, la conformité légale. Mais en fait, on n'en fait pas un outil qui aide le candidat à évaluer clairement son projet. Moi, je voyais fonds de roulement 4 000 €. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Je ne sais pas. Montant de publicité 1 000 €, est-ce que c'est la réalité ou pas? Il y a des sujets comme ça où on ne met pas de sens et où on ne comprend pas. Ça, sur le plan légal, les informations sont présentes, mais après, si on va un peu au-delà et qu'on en fait un outil d'aide, ça manque. Par contre, il y a un point qui, sur le plan du DIP mérite vraiment d'être apprécié, c'est l'état général de marché et l'état local qui sont assez légers en fait. Et il y a quand même une jurisprudence assez riche en la matière, donc je pense que s'il y avait des priorités à remettre en ordre sur le DIP, ce serait l'état local et l'état général. Généralement, c'est plutôt réalisé par des sociétés tierces, type société de géomarketing, et quand c'est réalisé en interne, c'est très approfondi et très bien structuré. Là, on a quand même des documents qui sont assez légers et qui méritent d'être poussés, quoi. Donc voilà, les 4 points, en fait, il y a la présentation de l'entreprise. Généralement, voilà, si c'est pas présent dans le DIP, on peut retrouver d'autres documents qui aident le candidat à. Les éléments financiers, on se limite au strict légal. On peut aussi avoir quelques éléments connexes qui aident le candidat à choisir, la marque, comme j'ai expliqué précédemment, et état local et général, qui pour moi sont vraiment la priorité.
Nicolas, sur l'état général et local de marché, est-ce que vous avez une réaction, des choses à préciser?
Oui.
Comment se porte le marché aujourd'hui, malgré évidemment les circonstances actuelles que l'on connaît?
Alors, je vais vous répondre là-dessus juste après. Tout d'abord, je vais venir répondre aux 2 remarques précédentes. Alors, nous, il y a aussi une explication à tout cela. Hein. C'est pas qu'on n'est pas conscient qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, mais c'est tout simplement que jusqu'à présent, en fait, les points que vous soulevez là, pour être complètement transparent avec vous, les points que vous soulevez là nous ont jamais empêché de faire avancer les porteurs de projets. Et c'est pour cela aussi, je pense, que ça n'a pas été plus complété que ça l'est aujourd'hui. En fait, on n'a jamais eu de cas où, à un moment, un porteur de projet s'est retrouvé face à ce DIP et nous a dit « Ah, je ne suis pas rassuré, oh, je manque d'informations ». Ça ne nous a jamais empêché. Alors, peut-être parce qu'on informe beaucoup et on accompagne beaucoup le candidat, ce qui fait qu'arrivé au moment du DIP, il a toutes les informations quand même qu'il lui faut, d'accord ? C'est peut-être aussi l'explication, parce que si jamais ça avait posé de problème, bah, la force des choses aurait fait qu'on on aurait retravaillé là-dessus. Après, pour ce qui est du plan de financement, il faut savoir que le plan de financement, c'est la version vraiment très, très allégée que vous avez dans le DIP. Nous, quand on envoie le DIP, on envoie en même temps le manuel opérationnel chez nous. Et dans le manuel opérationnel, vous avez notre plan de montage avec tous les frais qui sont entièrement détaillés. Voilà. Et vous avez même les charges. Vous avez même les charges d'exploitation, voilà, tout est détaillé. Donc en fait, la version que vous avez dans le DIP, et c'est vraiment une version ultra courte qui est juste en une page, mais vous avez la version complète en plusieurs pages qui est fournie en même temps dans un autre document, mais qui vient en même temps que le DIP. Voilà. Et par exemple, pour vous répondre sur le fonds de roulement, bah oui, le fonds de roulement, on met 4000 euros, c'est réaliste. Et pareil, sur les frais de communication, eh bien, en fait, on met 1000 euros. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la communication sur un centre tiers de plus, nous, chez nous, on travaille beaucoup avec le bouche à oreille, on travaille beaucoup avec la recommandation. Et finalement, la communication, en général, elle est limitée à la communication numérique, par exemple. Ça va être du Google, du Facebook, de l'Instagram, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que nous, on met en place pour le franchisé. Et finalement, le franchisé, lui, il se retrouve en général à faire un complément à hauteur de 250 euros par mois sur Internet de dépenses, et donc ce qui lui permet de communiquer sur les 4 premiers mois. Voilà. Et certains ne le font même pas, ne dépensent même pas à cette hauteur-là. Voilà. Pour ce qui est de l'état du marché, là aussi, c'est-à-dire que moi, par exemple, je réalise avec une de mes collaboratrices des rendez-vous d'implantation avec le candidat, et quand on examine la localisation de son implantation, bien sûr, nous, on va faire une étude de marché. Ce qui va permettre, bien sûr, de répondre à un certain nombre de doutes que peut avoir le candidat à un moment sur sa capacité de développement commercial et la concurrence qu'il pourrait y avoir éventuellement sur la ville sur laquelle il s'implante. Voilà. Alors ça, c'est réalisé lors d'un rendez-vous avec le candidat en individuel, c'est du personnalisé. Et c'est vrai que là encore, vous avez une version assez succincte sur le DIP, mais autour de tout cela, il y a toutes les informations nécessaires qui sont données, bien sûr, au candidat. Et si jamais dans ses demandes de financement pouvait y avoir un doute à un moment quand il est face à un banquier, par exemple, eh bien, bien sûr, il va armer à son rendez-vous pour obtenir son financement. Et on a donné toutes les informations qu'il faut. On n'a jamais eu de problème à un moment pour obtenir un financement à un candidat parce qu'il n'avait pas su répondre aux inquiétudes que pouvait y avoir la personne qui allait le financer. Voilà. Pour ce qui est de l'état du marché, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre objectif, c'est d'être au plus près des Français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pourrez très bien trouver un centre diète plus dans une ville de 6-7 000 habitants, comme vous pouvez trouver un centre diète plus à Paris, Lyon, Marseille. Voilà. Nous, notre objectif, c'est pas de nous implanter que dans les plus grandes villes de France. Au contraire, c'est d'être vraiment un peu partout en France. C'est-à-dire que chaque personne en France peut être confrontée à des problématiques de poids. Et chaque personne a le droit d'être accompagnée dans cette démarche-là. D'accord ? Et c'est pour cela que nous, on se doit d'être aussi bien dans les Côtes d'Armor à Guingamp que d'être à Louan, en Bourgogne, comme on est également à Bordeaux, à Paris, à Marseille. Chez nous, finalement, quand vous regardez un franchisé qui gagne bien sa vie, c'est finalement un franchisé qui a assez peu de clients. Donc, même si dans un rayon de 30 km autour de chez vous, vous avez ne serait-ce que 25 ou 30 000 habitants, vous avez largement de quoi pouvoir bien gagner votre vie, vous, en tant que franchisé. Voilà. Parce que nous, les clients reviennent chaque semaine. Et un franchisé Sylvain, qui gagne très très bien sa vie, c'est un franchisé qui a 200 clients, quoi.
Voilà. Sylvain, par rapport à ce qui vient d'être expliqué sur le marché et sur la zone de Chalandise et les localités visées, comment Diet Plus pourrait étoffer l'état local et l'état général de marché pour que ce soit plus clair, plus précis? Voilà, quelles sont les pistes pour améliorer ce point-là?
Bon, déjà, c'est important, en fait, ce qui est dit là à l'oral est très intéressant, donc ça mériterait, en fait, de se retrouver dans le DIP. Ce qui est important de se dire, c'est que la remise d'un DIP n'est pas un acte anodin, c'est un acte légal, et dans cet acte légal, il y a une obligation de remise d'un état général de marché et d'un état local de marché, et qu'aujourd'hui, la jurisprudence sur ce qu'est un État local ou un État général permet d'apprécier assez précisément ce que ça doit être. Donc, c'est vraiment nécessaire pour moi de le muscler dans le DIP. Le muscler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, donner un État général et un État local qui permettent, qui soient suffisants pour permettre à un candidat de faire son étude de marché. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, dans la pédagogie, c'est pas à vous que je vais l'expliquer parce que vous traitez des candidats au jour le jour, hein, donc vous savez de quoi je parle, mais l'objectif du franchiseur, c'est pas que de faire un franchisé, c'est aussi de faire passer un salarié la plupart du temps en reconversion et d'en faire un patron. Et donc, c'est à un moment donné de le responsabiliser en l'accompagnant sur le choix de son implantation, sur la compréhension de sa zone, sur la réalisation de son étude de marché et sur la réalisation de son prévisionnel. Et ça, en fait, c'est ça le côté précieux, je dirais, de la loi Dubin, c'est que son esprit, l'esprit de la loi Dubin, c'est ça. C'est d'aider, en fait, de contraindre quelque part un franchiseur à transmettre un certain nombre d'informations pour permettre à quelqu'un qui n'était pas entrepreneur, parce que c'est ça l'histoire de la franchise, à comprendre un concept et à savoir comment il va pouvoir jouer avec sur sa zone. C'est pour ça que donc l'État général et l'État local doivent être suffisants pour permettre à un candidat de faire son étude de marché en étant accompagné, en sollicitant régulièrement le franchiseur, en allant sur sa zone, en regardant quels sont les emplacements possibles, comment se comporte la clientèle sur son territoire, le territoire qu'il envisage, où il envisage son implantation, etc. etc. Donc ce point-là, il est vraiment important. Et voilà, et donc ce qu'on se dit là est important parce que ce que vous expliquez à l'oral, c'est ce qui devrait se retrouver en partie à l'écrit. C'est-à-dire, c'est quoi ce concept ? Qui sont les clients ? En quoi la crise actuelle explique beaucoup de choses, en fait, et donne encore plus de sens peut-être à la marque ? Et comment le marché va évoluer dans les années à venir ? La loi Dubin dit notamment de se positionner dans l'état général sur les perspectives du marché. Donc, on ne demande pas de sortir une boule de cristal et de préciser, hein, de prévoir ce qui est imprévisible. On demande d'expliquer quelles sont les tendances qui pourront justifier une évolution du marché. Et ces tendances sur le rapport à l'obésité, sur l'obésité dans notre pays en général, c'est extrêmement important. Et donc, c'est important que ça se retrouve dans ce document.
Autre point qu'on a légèrement évoqué tout à l'heure, c'était la communication. Le réseau n'a pas mis en place une redevance de communication. Et je crois que vous pointiez ce point-là, Sylvain, dans votre analyse. Donc, je vous laisse expliquer quelle interrogation cela pose pour le candidat.
Oui, alors en fait, bon, en règle générale, c'est 80% des réseaux de franchise fonctionnent en appliquant deux formes de redevances principales qui sont redevances d'exploitation et redevances de communication. Donc il y a 20% des réseaux qui ne fonctionnent pas sur le principe de redevance. Souvent, c'est des réseaux dits d'industriels, donc qui fabriquent des produits et qui vont quelque part noyer la redevance dans la marge produit parce que des animateurs, des développeurs de réseaux, une structure d'assistance, de formation initiale, de transmission de savoir-faire, ça a de la valeur et à un moment donné, il faut bien que ça se paye. Donc, 80% des réseaux séparent pour que les choses soient très transparentes et 20% des réseaux, en fait, noient ça dans les produits. L'histoire de la franchise montre que quand on ne sait pas trop comment tout ça est réparti, ça crée plutôt des tensions dans les réseaux. Et l'histoire montre aussi que une animation a une valeur, donc généralement elle est rémunérée par une redevance d'exploitation, et créer un pot commun de communication a énormément de sens, une redevance communication, parce que ça permet à la marque, arrivée à un certain stade, de mettre en place des actions de communication nationale, de mettre en place une vraie force de frappe, de mutualiser par exemple du community management pour être présent sur le web, etc. Donc, ça a du sens parce que ça donne de la lisibilité au réseau. Ça, c'est un point important. Ça donne de la lisibilité sur les vrais prix des produits aussi. Voilà, et la vraie, marge, la vraie valorisation, chaque chose a sa valeur. Et donc, c'est une économie qui est plutôt logique. Ici, on ne la retrouve pas complètement. Et c'est vrai que sur la redevance de communication, en fait, dans le contrat qui est annexé au DIP, on explique qu'on pourrait la mettre en place à partir du moment où le réseau atteint une taille critique. Et par contre, ce n'est pas précisé quelle taille critique. Et donc, ça peut être un point de doute vis-à-vis d'un candidat de se dire finalement, j'ai un modèle où il n'y a pas de redevance, c'est clair, j'y vais comme ça. Mais peut-être que demain, je pourrais avoir éventuellement, quand le réseau atteint une taille critique, une redevance. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Nicolas, du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser ce choix ? Comment se rémunère du coup la tête de réseau ? Et sur la redevance communication, préciser cette taille critique du réseau ?
Alors en fait, donc deux choses dans ce que vous dites. Nous, c'est très simple. Nous, on se rémunère grâce à la vente de produits, ce qui était dit juste avant. Chez nous, il y a ni redevance ni royalties. Par rapport à la communication, nous, on a fait un choix qui est que aujourd'hui, on est vraiment sur un marché qui est assez particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, on a réfléchi à notre communication. Bien sûr, on a dit, est-ce qu'on va faire de la communication à la télé, à la radio, dans les journaux ? Qu'est-ce qui est le plus pertinent ? En fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que notre notoriété, elle est surtout présentielle. Voilà. On a suffisamment de recul maintenant pour se rendre compte de la force de notre notoriété présentielle. Et en fait, on se rend compte que chez nous, les gens ne viennent pas par hasard. Ils viennent par hasard parce qu'ils viennent sur rendez-vous. Et au moment où ils prennent rendez-vous, ils ont déjà suffisamment d'informations sur la méthode. Le besoin, bah, il est clair, hein, vous ne prenez pas rendez-vous dans un centre de rééquilibrage alimentaire comme ça par hasard. Et souvent, vous prenez rendez-vous parce que vous avez été rassuré par l'efficacité de la méthode au préalable. D'accord ? Donc, bien sûr, nous, on s'est rendu compte que investir massivement dans certains types de communication n'allait pas être forcément pertinent, ça n'allait pas apporter plus de performance pour les centres. Par contre, ça n'empêche pas qu'on communique, mais on communique de façon un peu différente. Aujourd'hui, on a un community manager. Aujourd'hui, on a des personnes qui nous font des outils numériques et vidéos. Donc, si vous regardez bien, on est très présent sur les réseaux sociaux. On est très présent également sur la création de contenu vidéo sur YouTube, par exemple. On tient un blog. On fait pas mal de choses parce qu'on s'est rendu compte que on travaille beaucoup sur les témoignages aussi, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce type d'information-là que les gens cherchent. Voilà. Après, sur la redevance publicitaire, alors bien sûr, vous doutez bien que maintenant, après un certain nombre d'années, le sujet il a été abordé et abordé plusieurs fois. Il faut savoir que nous, on est un réseau collaboratif. On a une instance collaborative qui représente 10% du réseau, qui est réélu chaque année. Et tous nos franchisés, chaque année, ont la possibilité de faire 3 propositions. Alors, vous doutez bien que, vu le nombre de points de vente que l'on a, il y a forcément des franchisés qui, à un moment, ont posé la question de « Est-ce que, à un moment, vous allez, par exemple, faire de la publicité à la télé ?» Voilà. Alors, bien sûr, nous, on s'est renseignés là-dessus. On sait ce que ça coûte. Et ça a été soumis au vote. Et il s'avère que la majorité, dans notre instance collaborative, a voté contre la mise en place d'une communication nationale. Une communication nationale à grande échelle, hein, je veux dire, j'entends radio, télé, donc ce qui pourrait avoir un coût assez important. Parce que notre réseau savait que si à un moment on investissait massivement sur une communication, par exemple à la télé ou à la radio, bah derrière, il y aurait certainement une redevance publicitaire. Voilà. Et en fait, ce qui a été tranché, c'est de mettre en place une communication au niveau local. Et c'est pour ça que chaque point de vente aujourd'hui est, entre guillemets, responsable de sa communication au niveau local. Nous, on peut fournir tous les éléments pour les aider à créer leur communication au niveau local. On peut leur fournir, pour ceux qui le souhaitent, même, eh bien, éventuellement, une aide via des sociétés que l'on recommande pour les accompagner dans leur communication locale. Mais on n'impose pas à ce qu'ils investissent une certaine quantité, au niveau financier, je veux dire, un certain montant au niveau financier, dans leur communication locale. Voilà.
D'ailleurs, les franchisés sur le terrain, moi, quand je les avais interviewés pour la rubrique pour le magazine papier, me disaient que 80% de la clientèle venait par bouche à oreille, ce que vous disiez en préambule.
Oui, oui. En fait, nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, Un franchisé, c'est pas très compliqué, hein. Un franchisé aujourd'hui, quand il se lance, il va faire une partie de sa captation, bah, grâce à tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, hein, donc du Google, du référencement sur Google Maps, notre site Internet, du Instagram, du Facebook, voilà. Donc, tout ça, on les forme à ça et on les accompagne à ça. Donc certains sont assez autonomes dans leur communication au niveau numérique. On leur donne du contenu pour les aider à le faire. D'autres sont moins autonomes. À ce moment-là, on leur apporte une aide extérieure. Voilà. Et en complément de ça, ils vont faire forcément leur captation clientèle en jouant avec des partenariats au niveau local, en faisant la méthode un peu à l'ancienne. Hein. Vous faites aussi du street marketing, ce genre de choses. Voilà. Mais après, on se rend compte que quand vous arrivez à un certain niveau de captation clientèle, vous allez avoir une montée en notoriété, vous allez forcément avoir la recommandation. Nous, on travaille beaucoup sur le parrainage client, qui est un très, très fort levier chez nous, parce que forcément, quelqu'un qui à un moment s'épanouit, parce qu'il est plus heureux, il a perdu du poids, ainsi de suite, va forcément vous recommander. Mais c'est valable dans d'autres secteurs d'activité. Hein. Demain, vous avez un super coach sportif, vous allez en parler autour de vous, vous allez le recommander. Vous avez un très bon kiné, vous allez le recommander. Vous avez un très bon coiffeur, vous allez le recommander. Bah, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Voilà. Il y a très, très fort, une très, très forte captation de clients grâce au parrainage client. Et c'est aussi comme ça que nous, on alimente bien sûr le bouche à oreille. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on a un mode de fonctionnement qui est un peu particulier, qui fait qu'on a une communication qui peut être un peu différente. J'ai travaillé dans d'autres réseaux de franchise dans le passé où on n'avait pas du tout les mêmes stratégies de communication. Pour ce qui est dans le contrat de franchise, ce que l'on a... Oui. Ce que l'on a mis sur le fait que pouvait y avoir à un moment une redevance publicitaire. C'est tout simplement par le fait qu'on anticipe l'éventuelle mise en place d'une redevance publicitaire si jamais à un moment notre réseau décidait de voter en faveur de la redevance publicitaire. C'est-à-dire que nous, à un moment, on se doute bien, compte tenu de l'évolution que l'on a, on se doute bien qu'à un moment, il est fort probable que une redevance publicitaire, que les attentes de notre réseau aillent en faveur de la mise en place d'une communication beaucoup plus importante qui pourrait signifier à un moment la mise en place d'une redevance publicitaire. C'est pour cela qu'on l'a ajouté dans le contrat au cas où. Voilà. Mais au final, bien sûr, ce sera validé par notre instance collaborative. C'est-à-dire que nous ne mettrons pas en place une redevance publicitaire si notre instance collaborative, qui est composée de franchisés, votait contre cette décision.
C'est vrai qu'il y a toujours un écart qu'on trouve entre ce qui est écrit dans un contrat et puis la pratique opérationnelle, managériale au sein du réseau. Et puis, on a l'habitude parce qu'on voit ça régulièrement. Donc, tel que vous l'évoquez aujourd'hui sur le plan managérial, c'est si le comité le valide, on le met en place. Quand on dit dans le contrat, c'est pas une histoire de validation, c'est plutôt une consultation simple. Quand vous lisez la clause, vous dites si le franchiseur consultera, mais en fait, s'il veut le mettre en place, il le mettra en place, peu importe la décision. Mais on le sait tous les deux, qu'un franchiseur met en place de force une redevance au sein d'un réseau, si le réseau n'y adhère pas, c'est perdu d'avance. La clause telle qu'elle est formulée sur la notion de taille critique, sur la notion de consultation simple, c'est pas conventionnel, j'entends.
Oui, mais...
Et après, voilà, c'est pas conventionnel, c'est pas ce qu'on retrouve classiquement. Et puis encore, il y a un autre sujet aujourd'hui, ça vous concerne peut-être pas, mais moi je le vois de plus en plus sur de plus en plus de secteurs d'activité, la nécessité de bien donner de la lisibilité sur ce qu'alloue comme ressource le franchiseur à tel et tel endroit. Un exemple qui est dans un autre secteur d'activité où un franchiseur historique qui a plusieurs dizaines d'années d'ancienneté avec un réseau d'une centaine de points de vente en fait avait des concessionnaires qui distribuaient 100% de ses produits. Donc en fait le chiffre d'affaires d'un concessionnaire c'était 100% des produits du franchiseur. Sauf que le métier a évolué, sauf que l'enseigne a dû se repositionner et qu'aujourd'hui, en fait, il y a d'autres produits qui sont venus s'intégrer, mais il y a aussi une dimension service qui est extrêmement valorisée maintenant. Et donc, on se retrouve dans un réseau, en fait, où il n'y a pas de redevance d'exploitation. Il y a une rémunération du franchiseur qui est uniquement sur la vente de ses produits, Et les produits en question représentent une quote-part du chiffre d'affaires qui est devenue extrêmement faible. Donc, on a un effet ciseau qui se produit dans le réseau. C'est que les membres du réseau vont plutôt bien, développent du service, mais le franchiseur, lui, ne gagne pas d'argent sur le service parce qu'il n'y a pas de redevance. Et ça, c'est un sujet sur le plan stratégique, hein, j'entends. Hein, c'est pas, on n'est pas à l'état actuel des choses, mais on est peut-être dans 5 ans, 10 ans. C'est intéressant de se poser la question et de se dire pourquoi finalement 80% des réseaux aujourd'hui, une écrasante majorité des réseaux, pratiquent des redevances parce que en fait cette dimension service dans les points de vente a du sens, se valorise de plus en plus et que finalement vivre uniquement sur les produits, tel un contrat de concession quelque part, a de moins en moins de sens, quoi. Donc c'est une réflexion importante, je pense, à prendre en compte.
Non, mais alors ça, j'entends. Vous doutez bien que tout ça, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles forcément on pense.
Oui.
Aujourd'hui, je pense que notre modèle, il est bon et que ce soit sur la redevance d'exploitation comme sur la redevance publicitaire, on est dans le juste. Après. Il faut savoir aussi anticiper l'évolution d'un réseau. La réalité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle dans 5 ans. Voilà. Mais après, aujourd'hui, il faut savoir que nous, c'est pas juste du marketing de dire ça, c'est qu'on est un réel réseau collaboratif et que jusqu'à présent, toutes les évolutions de notre réseau, elles ont été faites grâce à notre réseau et en collaboration avec notre réseau. Voilà, c'est quelque chose dont vous parliez dans l'article, la forte proportion, par exemple, de franchisés qui sont venus via notre système de cooptation. Mm-hmm. Donc, c'est notre réseau qui a développé notre réseau. Pourquoi ? Parce que énormément de franchisés ont dans leur clientèle recruté de nouveaux franchisés. Et nos franchisés participent à un tiers de la formation des nouveaux venus dans le réseau. Et chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur 229 points de vente actifs en France que l'on a aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui sont des centres en propre. C'est-à-dire qu'il y en a 227 qui sont des franchises. On est un réseau, on n'a que 2 centres en propre. Donc, mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est vraiment un réseau quasiment pur franchisé. On n'est pas un réseau mixte. Voilà. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont assez importants aussi à prendre en compte dans le modèle qu'on a aujourd'hui.
Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission et de ces échanges très instructifs. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode du débrief du réseau à la une consacré cette fois-ci à l'enseigne des cuisines Vénidom. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast et sur les plateformes audio telles que Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.